Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Margot Leridon et Rosalie Suc, mais aussi Hélène Lefrançois et Bertie Bourdon, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Alexandre Dang. Dernier temps de notre semaine consacrée à la santé, après avoir abordé lundi les systèmes hospitaliers en crise, mardi les migrations internationales de médecins et hier l'industrie pharmaceutique en procès, intéressons-nous ce matin aux médecines traditionnelles. D'Abidjan à New Delhi, les promesses des médecines traditionnelles, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Ma vision n'est plus aussi bonne qu'avant. Et mon estomac produit beaucoup de gaz. Tout ça, ce sont des effets secondaires des médicaments. Ma mémoire est devenue mauvaise aussi. J'oublie beaucoup de choses. J'ai consulté tellement de médecins déjà. J'en ai assez de la médecine moderne. Je veux essayer l'Ayurveda.
Les Occidentaux voient l'acupuncture mystérieuse. Nous avons un autre regard, plus scientifique. Notre méthode d'acupuncture vietnamienne s'appuie sur l'énergie du corps. C'est la méthode Tan Cham. Ma méthode repose sur les réactions provoquées par l'aiguille. Celle d'exclure un corps étranger et celle qui crée une réaction d'autodéfense.
Maintenant, appuyez l'arrière des genoux contre le coussin. En pressant les muscles contre les os, vous augmentez la pression sanguine sur la moelle osseuse. Appuyez plus fort encore. Parfait. C'est comme ça que votre moelle osseuse va guérir.
Voilà, bout à bout de plusieurs extraits de documentaires sur la médecine traditionnelle diffusés tous sur Arte. On mettra d'ailleurs les références sur la page de Culture Monde. Sous l'impulsion de l'Organisation Mondiale de la Santé, la médecine traditionnelle fait depuis plusieurs années l'objet de politiques publiques dans différents pays en développement, notamment africains et asiatiques. Entre promotion des méthodes ancestrales comme alternative à la biomédecine dans les pays où l'accès à celle-ci est limité et encadrement des tradis praticiens pour prévenir le charlatanisme, le sujet s'est imposé à l'agenda de nombreux gouvernements. C'est le cas notamment en Côte d'Ivoire où en 2015, une loi a ainsi été adoptée intégrant officiellement la médecine traditionnelle au système de santé local. Un an plus tôt, c'est l'Inde qui se dotait d'un ministère chargé de l'Ayurveda, du yoga, de l'Unani et de l'homéopathie. S'il est au premier abord tentant de ne voir dans ce retour en grâce des médecines traditionnelles qu'une tentative de pallier des problèmes de déserts médicaux dans les pays en développement, la réalité est plus complexe. En effet, dans un contexte industrialisé et mondialisé, les savoirs ancestraux sont loin d'être réservés aux classes populaires peu éduquées et rurales. Et alors que les classes moyennes se les réapproprient, les gouvernements peuvent également les utiliser comme outils de soft power, comme on l'observe du côté de la médecine chinoise, ou comme ciment nationaliste même, avec l'Ayurveda en Inde, on le verra aussi. Alors qui recourt à la médecine traditionnelle aujourd'hui? Comment celle-ci est-elle encadrée? Pourquoi la promouvoir? À qui profite son industrialisation? Quels en sont aussi les dangers éventuels? Un certain nombre de questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Pour ce faire, nous avons invité Véronique Duchesne. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Véronique Duchesne. Vous êtes maître de conférence en anthropologie à l'Université Paris-Descartes, chercheuse au CEPED, qui est le Centre de Population et de Développement. Alors, on va parler beaucoup avec vous de l'Afrique et notamment de la Côte d'Ivoire. J'évoquais cette loi de 2015. On va revenir sur cette loi. Vous avez notamment consacré un documentaire sur cette fameuse loi, ses effets, on va s'y intéresser. Mais on va commencer par un peu de définition, Véronique Duchesne, parce que il y a beaucoup de termes pour parler des pratiques qui ne relèvent pas de la biomédecine. On parle parfois de médecine traditionnelle, comme je l'ai fait, de médecine ancestrale, parallèle, alternative, médecine douce. Qu'est-ce qu'il faut utiliser comme terme? Lequel est le bon? Et est-ce qu'il existe une définition formelle, officielle de la chose?
Alors ça, c'est la question, effectivement la question centrale à laquelle on est confronté nous-mêmes. Et finalement, on dit plutôt qu'il n'y a pas une médecine traditionnelle, mais déjà le pluriel est préférable. Et en fait, dès qu'on commence à s'intéresser à cette catégorie, on est obligé de mettre en avant que c'est une construction sociale, politique, culturelle. culturelle parce qu'elle veut s'opposer à une médecine qui serait dite moderne. Et penser d'emblée en termes d'opposition des médecines modernes, des médecines traditionnelles, c'est déjà un a priori et un ancrage politique et social. Donc on est obligé de l'utiliser puisque c'est ce qui est utilisé au niveau international, voire aussi au niveau national, pour justement plutôt les pays non occidentaux, mais il faut la remettre en question parce que je trouve qu'aujourd'hui, justement, pourquoi est-ce qu'on parle des médecines traditionnelles ailleurs qu'en Europe et finalement en Europe, en Occident, on parle de médecine alternative, non conventionnelle, voire même aux États-Unis justement.
Alors, en 2000, l'OMS a publié un document intitulé « Principes méthodologiques généraux pour la recherche et l'évaluation de la médecine traditionnelle » dans lequel elle définissait précisément la médecine traditionnelle. Je vais vous donner la définition et puis on va réagir dessus. La médecine traditionnelle est la somme totale des connaissances, compétences et pratiques qui reposent sur les théories, croyances et expériences propres à une culture et qui sont utilisées pour maintenir les êtres humains en bonne santé ainsi que pour prévenir, diagnostiquer, traiter et guérir des maladies physiques et mentales. Fin de citation, donc fin de définition. Il y a une chose, moi, qui me frappe là-dedans, c'est croyances et expériences propres à une culture. Quand on parle de croyances et expériences propres à une culture, on fait référence à des choses qui n'entrent pas dans, disons, notre logique cartésienne, rationnelle de la biomédecine. Donc on voit bien qu'il y a, en tout cas du point de vue de l'OMS, une dimension quasi spirituelle, mystique, religieuse.
Ah oui, mais ça, c'est justement ce qui est très gênant dans cette définition qui date des années 70, qui a jamais été reprise depuis, et évoquer à la fois des croyances, à la fois la question de une culture, c'est déjà plus que dérangeant, mais on la remet pas en question parce qu'on se dit, enfin pour l'instant, elle n'est jamais remise en question, cette définition, alors que elle est plus que dérangeante d'un point de vue scientifique, de toute façon.
Mais est-ce qu'il n'y a pas effectivement dans les médecines traditionnelles des choses qui relèvent effectivement davantage de croyances que d'une forme de thérapie? On va parler tout à l'heure de la Côte d'Ivoire, mais je sais que par exemple vous êtes intéressé à des acteurs qu'on vous appelait des devins thérapeutes initiés au culte invisible de la forêt. Est-ce que par exemple ces acteurs-là sont des tradipraticiens, sont des soignants comme les autres? Est-ce qu'il n'y a pas quand même un certain tri, d'une certaine manière, à effectuer dans ce monde-là?
Alors, cette question du tri, c'est justement ce qui est mis en avant. Mais le tri, pourquoi et comment faire un tri? L'idée aujourd'hui, c'est plutôt d'identifier tous les acteurs de santé, quels qu'ils soient, et ceux qui ont été là bien avant la colonisation, ceux dont vous parlez, là, les devins thérapeutes, et existaient et ont toujours soigné les populations, notamment en Afrique. Et simplement, aujourd'hui, ils sont identifiés. Et après, ce sont les... Moi, j'estime que les patients vont vers ceux qui leur conviennent, de toute façon.
Ceux qui leur font du bien.
Ceux qui leur font, qui sont censés les soigner et qui leur font du bien, oui, bien sûr.
Vous parlez de la Côte d'Ivoire. On va s'y intéresser parce que vous avez participé directement à un programme national ivoirien de la promotion de la médecine traditionnelle. D'abord, on va commencer par le début, si je puis dire. Depuis quand la Côte d'Ivoire cherche-t-elle à développer ses pratiques traditionnelles? On va revenir sur la loi de 2015, mais avant 2015, ça fait combien de temps qu'on se dit en Côte d'Ivoire, peut-être que c'est une bonne idée de remettre en avant, sur le devant de la scène, cette médecine traditionnelle? Est-ce que ça se fait immédiatement au moment des indépendances? Est-ce que c'est plus tardif?
Alors, je veux bien revenir sur la dimension un peu historique. C'est très important, justement. Et évoquer le fait que, sous l'occupation coloniale, cette médecine africaine, ces médecines, ces pratiques thérapeutiques, déjà plurielles, ont été condamnées.
Elles sont interdites.
Interdites, complètement interdites. Et ensuite, il y a eu le programme au niveau international, cette idée de valoriser, et ça s'est fait dans tous les pays africains également, la valorisation. Et le programme dont vous parlez, c'est un programme national de promotion de la médecine traditionnelle, donc qui a été mis en place dans tous les autres pays également, en tout cas de l'Afrique de l'Ouest. Et je travaille sur l'institutionnalisation, donc sur avec eux pour voir comment ils identifient, comment ils régulent les praticiens et comment cette valorisation normalement ne devrait même plus avoir lieu, puisque de toute façon ils n'ont pas besoin de valorisation, ils ont plutôt besoin d'un encadrement certainement. Et ça c'est à l'échelle aujourd'hui nationale, et ça remonte aux années déjà 95. Il y avait dans les années 90 déjà un élan qui venait par l'OAS également, hein, l'organisation ouest-africaine de la santé. Donc à l'échelle régionale, c'est quelque chose qui est largement partagé, c'est pas uniquement en Côte d'Ivoire, c'est ça que je voulais dire.
Alors plus récemment, en juillet 2015, donc cette loi est votée, cette loi relative à l'exercice de la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette loi? On va regarder si on peut déjà mesurer les effets, mais d'abord, présentez-nous en quelques mots peut-être les grands principes généraux de cette loi.
Alors je l'avais...
Véronique Duchesne.
Oui. Je l'ai...
Vous sortez un petit fascicule sur lequel j'imagine...
Parce que c'est ce fascicule qui est présenté notamment à tous les praticiens de dits de médecine traditionnelle, c'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui, en tout cas en Côte d'Ivoire et dans les autres pays d'Afrique de l'Ouest. Les praticiens de médecine traditionnelle reçoivent lors de leur inscription un fascicule précisant la loi, donc vous voyez l'importance de l'écrit, et le code d'éthique et de déontologie des praticiens de médecine et de pharmacopée traditionnelle. Et avec cette idée de effectivement qu'ils doivent se faire enregistrer, également ne pas faire de publicité, et tout ce qui relève d'un code de déontologie figure déjà dans cette loi.
Donc ça veut dire, on s'arrête un instant ici, Véronique Duchesne, on parlait tout à l'heure, c'est moi qui ai introduit le terme de charlatanisme, parce que il peut effectivement y en avoir dans ce genre de pratique. Ça veut dire que dans cette loi, on a fait un effort pour précisément lutter contre cela, en interdisant les publicités, en interdisant les praticiens de se dire supposément docteur, professeur et que sais-je encore. Ça, c'est des choses qui ont été inscrites donc dans la loi à travers ce code d'éthique.
Tout à fait, et c'est même présenté lors des formations qui normalement sont obligatoires quand ils viennent s'enregistrer et quand ils s'enregistrent soit au programme national, donc à Abidjan, ou soit dans les districts sanitaires aujourd'hui. Alors là, j'étais pendant 2 mois sur mon terrain en Côte d'Ivoire, et ce qui se passe, c'est aujourd'hui des associations au sein de chaque district sanitaire, des associations des praticiens de médecine traditionnelle à l'échelle d'un district qui donc forment une association, qui vont donc même se retrouver avec le DD, le directeur de district, et vont maintenant être des interlocuteurs à part entière pour les référencements avec les professionnels de santé de la biomédecine et des CHU ou des centres à l'échelle régionale.
L'objectif de cette loi, Véronique Duchesne, c'est quoi? C'est de formaliser, d'enregistrer ces tradis praticiens de sorte à les faire rentrer dans le circuit légal de la médecine, de la santé. Est-ce que c'est ça?
Oui.
Comment on s'y prend?
C'est ça. Alors, c'est très difficile. C'est très difficile, mais dès qu'il est question de régulariser, c'est effectivement difficile, parce qu'il y a l'idée d'encadrer, de faire que chacun normalement doit avoir un registre. Alors là, on rentre déjà dans la difficulté de maîtriser ou non l'écriture, puisqu'il faut normalement avoir un registre dans lequel chaque patient est enregistré, et c'est intéressant au niveau après de la santé publique, des populations, est-ce qu'il y a telle malade, telle pathologie plus importante dans telle région avec tel praticien. Mais ça, c'est encore, c'est des choses, ce dont je vous parle, c'est des choses qui sont en train de se faire. Et en plus, en sachant que c'est encore récent, 2015, effectivement, c'est des choses en cours.
Ce qu'on voit à un moment dans votre documentaire, Véronique Duchesne, c'est une séance durant laquelle des tradis praticiennes, des tradis praticiens exposent, partagent leur expérience dans les locaux visiblement du ministère de la Santé et de l'Hygiène. Et c'est l'un des volets, des objectifs de cette loi, c'est-à-dire la formation, en tout cas parfaire la formation de ces tradis praticiens. Concrètement, qu'est-ce qu'on essaye de leur transmettre comme type d'information, de savoir?
Alors, je réponds toujours un tout petit peu à côté.
C'est pas grave,
mais,
vous avez le droit.
Mais je réponds finalement, parce que je veux d'abord dire qu'ils sont très demandeurs. Mm-hmm. Alors là, c'est quelque chose qui était assez inattendu. Les praticiens, ils ont toujours été demandeurs de formation. Ils ont envie d'apprendre. Alors, évidemment, ils ont envie d'apprendre des choses sur les pathologies en français, qui sont identifiés en français et autour du diabète. Alors là, ce qui leur était proposé, c'était en lien avec le paludisme. Mais effectivement, d'une part, ils sont demandeurs de formation et en même temps, la difficulté, c'est à qui sont ceux qui viennent en formation. Est-ce que tous sont informés et est-ce qu'ils peuvent tous suivre ce qui est donné par un médecin du programme national de médecine traditionnelle, donc mais un médecin formé en biomédecine et un vocabulaire pour ceux qui étaient présents là, la majorité étaient déjà des férus de formation, mais j'imagine qu'il y a il faut aussi pouvoir traduire, transmettre à d'autres.
Et donc ça veut dire quand même que les personnes qui viennent se faire former, que l'on fait rentrer dans ce circuit légal de la santé ivoirienne, ce sont déjà des personnes qui sont déjà très au fait de ces choses-là, qui sont pour la plupart assez éduquées. En effet, quand on regarde les images, on voit que la plupart prennent des notes et donc savent écrire. Est-ce que ça veut dire que, d'une certaine manière, on laisse aussi de côté tous les autres? Et qu'est-ce qu'il représente précisément dans cette médecine traditionnelle ivoirienne? Est-ce que finalement on ne passe pas à côté de l'essentiel qui ne passe pas par justement ces canaux?
Alors, pour l'instant, effectivement, il y a une grande partie de praticiens, dits praticiens de médecine traditionnelle, qui, loin d'Abidjan, loin des grandes villes, continuent à exercer, ne connaissent pas encore la loi, ne connaissent pas non plus l'existence du programme et l'existence de formation.
Mais est-ce qu'on va pas les chercher? On va pas à leur rencontre précisément? Il n'y a pas des missions qui visent précisément à aller les rencontrer sur le terrain?
Oui, mais alors, le programme national en question est une petite équipe, toute petite équipe, qui n'a pas de financement par le Fonds mondial de la santé, ou par tous les grands programmes en lien avec le VIH, et donc finalement...
C'est des fonds nationaux, il n'y a pas de,
oui,
y a pas de bailleurs.
Exactement, ce ne sont que des fonds nationaux. Et ça fait que c'est très réduit. Il y a une pharmacienne, enfin je peux vous donner qui forme l'équipe, c'est une petite équipe.
Le profil des personnes qui viennent justement faire ces formations, c'est quoi? Le profil et puis peut-être la géographie, comme ça va nous permettre aussi de voir qui est-ce qu'on a derrière les patients, les populations qui ont recours à ce type de médecine.
Alors, tout ça, c'est du travail en cours. Hein. Là, on est dans la recherche en train de se
faire.
Justement,
travaillons ensemble.
Dans les formations auxquelles j'ai pu assister, il y a des habitués. Il y a les habitués qui ont toujours envie de venir participer, mais qui sont pas uniquement d'Abidjan, en revanche. Là, ils viennent des villes, même des villes du nord, de l'ouest, Mans, mais des grandes villes quand même. Mans, Korogo, Daloa, et qui ont un niveau scolaire déjà élevé et une génération de jeunes gens également. Des plus jeunes qui revendiquent et veulent appartenir, être des professionnels de cette santé aujourd'hui.
Est-ce que ça veut dire, quand j'écoute le profil que vous nous exposez, Véronique Duchesne, qu'en réalité, les patients qu'il y a derrière, c'est pas forcément des populations pauvres, rurales, éloignées, etc., mais c'est aussi des classes moyennes, urbaines, etc. C'est aussi cette clientèle-là qu'on a.
Oui, dans les villes, oui. Ah oui, complètement. Mais en revanche, il y a toujours également des praticiens, des thérapeutes qui s'adressent à la population en zone rurale, bien évidemment. Mais
il y a les deux
coexistent.
Une fois qu'on a fait rentrer ces gens, j'allais dire, dans le circuit donc officielle, formelle de la santé ivoirienne. Comment les choses s'articulent avec le monde de la biomédecine, de la médecine conventionnelle? Est-ce que ce sont des mondes qui se parlent? Est-ce que pour l'instant on se regarde un peu en chien de faïence et d'une certaine manière on refuse cette collaboration? Je sais que par exemple vous avez travaillé sur un homme qui fait de l'algithérapie, c'est comme ça qu'on dit? L'argilothérapie, voilà, pardonnez-moi. Donc il utilise l'argile pour soigner les gens, il est intégré dans un CHU d'Abidjan et la question est de savoir... plus maintenant, mais enfin, peu importe, il l'a été. La question est de savoir comment est-ce que, à l'époque, les médecins, les biomédecins percevaient justement cette arrivée.
Alors, de toute façon, la confrontation, c'est de l'ordre de la confrontation. Ça a été pendant très longtemps confrontation entre ces soi-disant ces deux médecines, alors que il y a des tas, il y a une pluralité de médecines. Là, on n'a pas évoqué même les médecines directement associées au monothéisme, hein, donc d'un point de vue religieux. Et donc cette confrontation avec la biomédecine, ce qu'ils disent très souvent, c'est que ils viennent tous ceux qui sont médecins formés, pharmaciens à cette médecine au départ coloniale, viennent les voir, mais la nuit en cachette, ne le disent pas. Alors ça c'est tout à fait juste, et également qu'aujourd'hui là les référencements, on réfère, alors là ils réfèrent tous. Enfin, je l'ai observé. Ça, ils le disent qu'ils réfèrent dans les CHU et les patients qu'ils voient arriver et qui avec lesquels, par exemple,
les CHU, c'est les CHU.
Les CHU, bien sûr. Je le dis à l'ivoirienne. Je suis désolée.
Non, mais pas problème. Mais que les choses soient claires.
Désolée. Et finalement, aujourd'hui, je trouve qu'il y a de toute façon un dialogue entre les deux, allez, on caricature un peu, entre les deux. Mais ça n'était pas dit ouvertement. Et on commence, ça va finir par se dire que... parce que tous échangent avec des biomédecins, connaissent un médecin du district avec qui, auprès de qui ils envoient leurs patients. Mais la réciproque n'est pas vraie. C'est ce qu'ils disent d'emblée. Mmh. C'est qu'en revanche, la réciproque n'est pas vraie jusque-là. Que les médecins n'envoient pas vers les praticiens thérapeutes dits traditionnels.
Alors, cette loi de 2015 que j'évoquais, il y a aussi tout un volet destiné à faire de la collecte, de la compilation des herbes, des plantes, de leur pouvoir guérisseur. C'est un des éléments de la loi. Je propose d'écouter un extrait d'un documentaire que vous connaissez, puisque c'est vous qui l'avez réalisé. Le titre de ce documentaire, c'est « Des racines et une loi ». On va parler justement de cette pharmacopée.
C'est son nom du lac que je connais.
C'est quoi?
On appelle ça Batran.
Batran.
Ça, c'est un douleur.
5. Alcornea cordifolia. Il a deux noms. On peut l'appeler aussi Melicia excelsa.
Donc, tu mets Allah à côté.
Donc, tu mets chlorophore excelsa. 6.
Tu bois ça pendant une semaine?
Oui.
Tu commences à faire le vent. Boum.
On appelle ça. Jatropha curcas.
Ah, c'est ça.
C'est l'espèce qui change.
C'est ça. Et les vertus changent aussi.
Voilà, extrait de votre documentaire Des racines
et une loi. Film de recherche.
Documentaire, film de D'accord. recherche. Parlez-nous un peu justement de ce travail de formalisation de la production de ces médicaments à base de substances naturelles, de son importance, Véronique Duchesne. Comment ça se passe et pourquoi est-ce que c'est si important?
Avant, je voulais dire merci pour cet extrait parce que je trouve que là, on a en même temps le passage de la transmission. Elle parle en langue vernaculaire et on a le botaniste du programme qui la reçoit et qui en même temps lui donne le terme scientifique et il lui écrit, elle va donc prendre note et pour pouvoir le mettre, l'indiquer ensuite sur les tisanes ou les remèdes qu'elle va proposer. Donc ça, c'était c'est un moment intéressant, je trouve, au sein d'un bureau, bref, dans un environnement qui normalement n'est pas celui des plantes, quoi. Et votre question.
L'importance de ce travail. Pourquoi est-ce que c'est si important de faire ce travail de collecte, de recherche d'informations et de formalisation des choses pour qu'on puisse utiliser précisément tout ce corpus de la pharmacopée de cette médecine traditionnelle ivoirienne?
Alors, il se trouve que normalement, à l'échelle étatique, ils doivent également réguler les produits, non seulement les praticiens, les pratiques, mais aussi les produits. Les produits, c'est alors ce qui est appelé également en Afrique médicaments traditionnels, avec également des médicaments traditionnels améliorés. Donc cette idée de pouvoir avoir une traçabilité, pouvoir étudier la toxicité, avec cette idée de effectivement aujourd'hui de santé publique et donc de médicaments dits traditionnels qu'il faut mieux identifier et mieux surveiller.
Parce que quoi, le but c'est ensuite de produire des médicaments qui vont être officiellement mis sur le marché, c'est ça ?
Alors en fait, ça se fait déjà. Bien sûr que ce qui est compliqué, c'est que ces praticiens, vous savez, c'est seulement en France, enfin en France, en Europe, aux États-Unis, qu'il y a cette différence entre les médecins et les pharmaciens. Là, normalement, enfin ce que j'ai toujours connu également, c'est le praticien connaît les plantes qui soignent justement la pathologie qu'il connaît bien, et c'était au départ avec des plantes fraîches, avec de l'argile blanche, enfin, et petit à petit, on est passé maintenant à l'idée de produire en masse. Et là, tous ceux qui viennent, tous ceux que je rencontre aujourd'hui, notamment qui viennent en formation, qui viennent à Abidjan, produisent déjà. Alors, c'est des unités artisanales de médicaments traditionnels, mais c'est véritablement pour un grand nombre. Et donc, il s'ensuit qu'il faut que ce soit conservé, il faut que ce soit. Donc, ils n'imaginaient pas, je pense, tous en se lançant dans. Puisqu'il y a en même temps quand même un engouement actuel pour tout ce qui relève de la nature, ce qui serait des médicaments naturels, eh bien il faut qu'ils produisent, et maintenant ils veulent gagner aussi avec en fabriquant plus, sauf qu'effectivement derrière il y a tout ce qu'on découvre là, l'autorisation de mise sur le marché, voire essayer de breveter l'invention, et donc c'est des choses qu'ils n'imaginaient pas et qu'ils découvrent dès qu'ils commencent à mettre un pied, en tout cas à connaître notamment ce programme national de médecine traditionnelle.
Donc il y a cet effort des autorités qui essayent de, je ne sais pas si c'est le terme, de labelliser, en tout cas de formaliser tous ces petits ateliers qui font des médicaments aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est ça ?
Si, ouais, c'est bien ça, de standardiser. Mais parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est quand même à l'échelle mondiale. Et que ces médicaments, certains peuvent se retrouver vendus même sur Internet. Tout est possible parce qu'il y a une demande.
Oui, alors,
il y a
une demande. C'est ça qui est intéressant, c'est que sur cette standardisation, évidemment, il y a un souci purement sanitaire. Il faut quand même contrôler que ce ne sont pas des médicaments qui vont provoquer des effets catastrophiques. Donc il y a cette dimension-là. Et puis il y a une autre dimension peut-être, qui est aussi un travail de légitimation de tout ce savoir-là. Parce que on va parler dans un instant de l'Inde et puis aussi de la Chine. En Inde et en Chine, les médecines traditionnelles, elles s'appuient sur un corpus écrit. Alors que du côté de l'Afrique, c'est vrai qu'on a quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'oral, et que du coup, cette transmission se fait de façon plus difficile. Et d'ailleurs, probablement que ça participe de notre représentation. Vous me faites du pouce, mais de notre représentation, cette médecine traditionnelle africaine qui ne serait pas, en réalité, une bonne médecine parce qu'il n'existe pas d'écrit à son propos.
Ah ben là, vous touchez le point clé. C'est parce qu'effectivement, par rapport à ce qui est connu parmi ces médecines dites traditionnelles, que ce soit Inde, Tibet et autres, la médecine africaine, eh bien, elle n'a aucun écrit, et la transmission s'est faite oralement, et s'est faite soit par au niveau intrafamilial, soit par initiation, et donc jamais aucun écrit, et il y a même le secret qui est très important, et donc difficulté pour la transmission.
On est avec vous, Véronique Duchesne, dans cette semaine consacrée à la santé, aujourd'hui d'Abidjan à New Delhi, les promesses des médecines traditionnelles, et précisément on va prendre la direction de l'Inde.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
On va parler de la médecine ayurvédique qui est utilisée en Inde depuis plus de 5000 ans, extrêmement large puisqu'elle regroupe la diététique, la phytothérapie, l'aromatothérapie, les massages, le yoga, le chant, la respiration, la méditation. C'est une médecine éminemment holistique. Et d'ailleurs, le premier ministre indien, Narendra Modi, voudrait la voir révolutionner la médecine mondiale.
Un pays ne peut pas progresser s'il échoue à être fier de son héritage culturel. De nombreux médecins ayurvédiques prescrivent une médecine allopathique. Lorsque l'Inde est devenue indépendante, l'espoir de raviver des connaissances perdues était vivace. Mais cela n'est pas advenu. Depuis, nous avons exporté plusieurs de nos brevets médicaux vers d'autres nations. Nos propres remèdes nationaux sont désormais appropriés par d'autres que nous.
Voilà, extrait de l'allocution de Narendra Modi, Premier ministre indien, lors de l'inauguration de l'Institut ayurvédique indien à New Delhi. C'était en octobre 2017. On va accueillir un nouvel invité, Laurent Pordier. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes anthropologue, pharmacologue, chercheur au CNRS, affilié au Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud. Vous entendez les propos à l'instant de Narendra Modi. J'en ajouterai un autre, toujours extrait justement de cette inauguration. Il disait « Nous avons assisté à la révolution informatique ces 30 dernières années. L'heure est venue pour une révolution dans la santé sous la lumière de l'Ayurveda. » Alors, on doute absolument pas, Laurent Pordier, des bienfaits de l'Ayurveda en matière de santé. Mais c'est vrai que les déclarations de Modi sont souvent à lire quand même à l'aune du nationalisme hindou qui le caractérise. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, Modi, en 2014, donc il a multiplié les initiatives dans le domaine. Je parlais tout à l'heure dans l'introduction, dans mon petit chapeau, de la création de ce ministère Ayush. Un ministère de l'Ayurveda, du yoga, de la naturopathie, Unani, Siddha, Sowariga et homéopathie. Voilà, je suis complet. Comment interpréter ce geste politique, Laurent Pordier? Est-ce qu'il faut comprendre que l'Ayurveda, c'est aussi, pour Modi, un formidable outil de promotion du nationalisme hindou?
Et alors évidemment, Modi nous a apporté des preuves de son nationalisme exacerbé depuis bien avant qu'il soit au pouvoir d'ailleurs. Mais dans cette allocution-là, il nous fait une petite leçon d'anthropologie finalement, parce qu'il nous montre bien que les médecines comme institution sociale empiètent dans divers domaines de la société, comme le politique, le champ identitaire, l'ethnique, le culturel, etc. Et pour cette raison-là, sont sujettes à des réappropriations de tout ordre et dans des champs divers et variés, dont celui du nationalisme.
Mais jusqu'où, Laurent Pordier, cette médecine ayurvédique puisse-t-elle, précisément, dans l'identité hindoue? Quelle dimension confessionnelle, religieuse de ces pratiques de médecine traditionnelle?
Alors, on remonte pour ça au premier texte. Alors, ouais. Il y a un discours sur une origine millénaire, c'est que je vous ai entendu dire, monsieur Delorme, c'est 1000 ans, en fait, c'est probablement beaucoup plus récent, du moins, de ce que l'on sait au moment où les doctrines ont été figées dans des textes, les premiers textes de l'Ayurveda au début de notre ère, 3e siècle pour le Charaka Samhita.
Mais d'aucuns disent que ça remonte à avant les textes, précisément. Mais enfin bon, on va pas rentrer dans ce débat-là, oui, mais c'est vous qui avez raison, c'est vous le spécialiste.
Donc, on avait une pratique avant qui a été fixée dans les textes canoniques, et ces textes canoniques étaient eux-mêmes imbriqués dans la vie sociale et religieuse d'alors, et étaient à ce moment éminemment hindous. Après, ce qui est important de savoir sur la construction historique de cette médecine, c'est que de tout temps, on va prendre l'exemple des pharmacopées. Il y a eu des échanges qui sont passés, comme avec l'herboristerie populaire, ou des emprunts entre médecines savantes, que ce soit l'Ayurveda ou la médecine gréco-islamique qu'on appelle Yunani en Inde. Il y a eu beaucoup de ponts qui se sont faits entre praticiens. On trouve des praticiens perses qui ont écrit des textes ayurvédiques, par exemple. Donc l'ancrage hindou est facilement montrable d'un plan social actuel. Mais on trouve quelques failles, si vous voulez, dans la construction même historique de la médecine.
Mais alors, Laurent Pordier, ça se complique aussi, parce que ce que vous expliquez, c'est que les nationalistes hindous ne sont absolument pas les seuls à promouvoir l'ayurvédique, puisqu'on le voit aussi de l'autre côté de l'échiquier politique, du côté de l'extrême gauche, notamment chez les communistes. Alors là, il faut comprendre la chose, puisqu'il n'y a plus ce ressort nationaliste hindou. Comment se fait-il que les communistes fassent la promotion de l'ayurvédique?
Alors, c'est pas les communistes au sens au sens politique, ouais. au sens du parti politique, mais c'est plutôt les l'intelligentsia, les intellectuels communistes qui se réclament des études subalternes et qui en effet revendique l'existence de l'Ayurveda face à divers pouvoirs coloniaux et la biomédecine étant une de ses expressions, si vous voulez, depuis le début de la colonisation en Inde.
Mmh. Oui, donc la prépondérance de leur point de vue de la biomédecine sur la médecine, les médecines traditionnelles, elle serait le symbole de la domination des colons sur les Indiens. C'est à peu près ça le discours.
C'est exactement ça. Ouais.
Laurent Pordier, la place réelle de cette médecine ayurvédique en Inde, est-ce qu'elle est aussi répandue, voire plus que la biomédecine conventionnelle ?
Alors, elle est très répandue. Elle est certainement moins répandue que la biomédecine. Il faut rappeler que même en Inde rurale, le premier type de recours aux soins, c'est le centre médical, l'infirmier du coin ou la pharmacie. Sauf dans certains cas particuliers qui sont des maladies dermatologiques, chez certaines populations du sud de l'Inde, où ils iront plutôt voir des thérapeutes religieux, donc ils ne sont pas dans ce cas-là des médecins ayurvédiques, donc dans les temples. Enfin, le premier type de recours aux soins, c'est bien la biomédecine. Ce qui est intéressant en Inde aujourd'hui, ce qui est frappant depuis une quinzaine d'années, c'est le renouveau de l'ayurveda et des médecines savantes dans le milieu urbain, sous la forme de produits, de médicaments produits en masse, directement dirigé vers ce type de classe sociale-là.
Oui, donc ça veut dire que c'est un petit peu comme le cas de la Côte d'Ivoire qu'on évoquait tout à l'heure avec Véronique Duchesne, c'est que c'est pas nécessairement dans les zones les moins riches, les zones rurales qu'on va trouver ce type de pratique, mais c'est aussi chez les classes moyennes des zones urbaines. C'est aussi ça.
Oui.
Et de plus en plus.
Oui. Et de plus en plus. Mmh. En fait, on observe un triple glissement des pratiques, pour ce qui concerne les médecines traditionnelles en Asie, elles sont plus onéreuses, donc la production en masse elle les a rendues chères. Il y a un glissement social de ce fait-là, on passe vers les classes moyennes aux classes élevées, il y a un glissement géographique du milieu rural vers le milieu urbain.
Vous restez avec nous, Laurent Pordier, je veux faire réagir Véronique Duchesne, parce que ça, ce glissement social et géographique, vous l'avez aussi constaté du côté de la Côte d'Ivoire.
Ah oui, oui, complètement. Mmh. Ça, c'est tout à fait ça, oui, oui. Oui, mais je pense qu'effectivement, le fait de produire en masse, y a un coût et après, en même temps, il y a aussi tout à fait aussi, en même temps, dans le cadre de cette mondialisation des médecines traditionnelles, il y a cette idée de la nature, du recours à ce qui est bio, comme c'est comme ça que c'est dit également. Et ça, c'est partagé finalement largement au niveau planétaire, quoi, mondial.
Laurent Pordier, que veut faire aujourd'hui le pouvoir indien avec cette médecine traditionnelle ? Est-ce que le but, c'est d'aller concurrencer la biomédecine conventionnelle ? Est-ce que le but, c'est de la faire accepter par cette dernière, précisément avec l'idée que, eh bien, elle aussi, c'est une médecine qui peut s'appuyer sur des considérations cartésiennes, c'est aussi une médecine par la preuve, comme le disent les spécialistes. Laurent Pordier, c'est quoi l'objectif des autorités indiennes ?
Alors ça, c'est une question complexe, mais vous y avez partiellement répondu. Il y a trois points principaux. Sur les rapports à la science, la recherche d'efficacité thérapeutique permet de donner une forme de validité universelle par la science à des médecines qui sont considérées comme étant ancrées dans un univers culturel historique particulier. Donc la science permet d'une certaine façon, en reconnaissant la validité scientifique d'une médecine donnée ou d'un traitement donné, de l'universaliser. Ça un type de conséquence forte, c'est que ça permet sa diffusion dans d'autres univers. Et notamment au niveau planétaire.
Oui, au-delà des frontières indiennes.
C'est bien cela. Donc, c'est le second point. Le premier, c'est la recherche d'efficacité. Ensuite, on est lié à une économie des médecines traditionnelles qui passe par la diffusion mondiale de ces produits-là. Alors, contrairement aux grandes ambitions de l'OMS à partir de la conférence Alma-Ata de 79, qui voyait donc les médecines se développer au plan mondial pour un ensemble de raisons que je ne vais pas détailler maintenant. Aujourd'hui, la diffusion des médecines passe exclusivement par, ou quasi exclusivement, par des entrepreneurs privés.
Oui.
Il y a des partenariats publics, privés, en Inde notamment, pour booster l'économie des médecines traditionnelles et son exportation. Enfin, ce sont surtout les industries pharmaceutiques. Ça marche très bien. Les industries pharmaceutiques en Inde existent depuis le début du XXe siècle et celle qui est la plus connue aujourd'hui, du moins la plus exportée, produit des millions de médicaments dans 92, distribue, pardon, des millions de médicaments dans 92 pays sur la planète, à des unités de production aux États-Unis, au Moyen-Orient, etc. Donc ça, c'est le second point. Donc, évidemment que pousser les médecines traditionnelles, c'est booster l'économie du pays, mais aussi, comme l'a bien fait comprendre Modi, avec elle, permettre la diffusion de fragments de culture, d'une certaine philosophie du vivant, qui est ancrée dans ce cas-là, dans la religion hindoue, et qui est assez séduisante pour les consommateurs occidentaux, qui cherchent dans ces médecines-là une certaine forme d'altérité.
Tout dernier mot, Véronique Duchesne, pour compléter les propos de Laurent Pordier sur la médecine traditionnelle indienne. Et puis ensuite, on va passer du côté de la médecine traditionnelle chinoise, qui, elle, s'exporte très bien, on va le voir. Encore un mot ? Pas plus que ça. Merci Laurent Pordier d'avoir été avec nous. Vous êtes anthropologue, pharmacologue et chercheur au CNRS, affilié au Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud. La médecine traditionnelle chinoise, je le disais, une médecine inspirée du taoïsme, du confucianisme, qui fait intrinsèquement partie de l'histoire culturelle chinoise. Si elle était originellement pratiquée par des chamans et des guérisseurs, une branche de cette médecine, l'acupuncture, est aujourd'hui officiellement reconnue par le Conseil national de l'Ordre des médecins en France. Et du coup, il y a évidemment des praticiens acupuncteurs ici en France.
En général, les massages qu'on fait, c'est selon les méridiens et les points d'acupuncture. Donc, c'est-à-dire, en massant, on sent aussi où il y a des blocages. Par exemple, ici, il y a un nœud. On doit masser jusqu'à ce qu'il soit parti.
Est-ce que vous avez le droit de pratiquer des massages comme ça dans votre institut ?
On a le droit d'en signer.
Mais pas de faire ?
Normalement, non. C'est des élèves qui sait qu'on donne des cours. Donc, il m'a demandé de faire ma salle. C'est parce qu'on a des cours. Il sait que, bon, c'est comme des amis, il n'y a pas de problème. C'est comme des amis, il a demandé.
Voilà, extrait d'un reportage de France 2 avec Maître Jian qui explique comment il dispense des massages en plus de l'acupuncture et du Qigong. On va essayer de s'intéresser justement à cette médecine traditionnelle chinoise en Europe et en particulier en France, comprendre cet engouement, comprendre aussi comment est-ce que cette médecine s'est diffusée à travers le monde, à travers l'Europe, à travers la France, les efforts de Pékin pour faire rayonner cette médecine traditionnelle. Bonjour Simeng Wang.
Oui, bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes sociologue chargé de recherche au CNRS. Vous avez notamment écrit un article dont on va parler aujourd'hui, les nouvelles circulations de la médecine chinoise après l'Afrique, l'Europe, dans la revue Mouvement. D'abord, première chose, Simeng Wang, est-ce qu'on a un tout petit peu une idée de la place réelle de la médecine traditionnelle chinoise en France ? Est-ce qu'il y a des indicateurs, des mesures qui nous permettent d'avoir une idée générale, Simeng Wang ? De quoi on parle là ?
Alors, effectivement, la médecine chinoise existe déjà et pratiquée depuis plusieurs siècles, déjà en France, notamment avec l'arrivée, les premières arrivées des migrants chinois qui s'installent donc en France, qui véhiculent déjà ces savoirs d'une manière on pourrait le qualifier d'une mondialisation par le bas. Aujourd'hui, il est tout de même difficile d'avoir des statistiques qui permettraient d'avoir un paysage global de cette médecine. Mais avant de vous répondre, je pense qu'il est très important de rappeler au sein de cette médecine chinoise qui a un système médical en soi, il existe plusieurs branches de cette médecine, donc on peut parler de l'acupuncture et d'ailleurs c'était un peu ce que vous avez rappelé tout à l'heure, mais il existe aussi la pharmacopée chinoise, la diététique chinoise, le massage, ce qu'on appelle Tuina, mais aussi les pratiques psycho-énergétiques de type Qigong ou Tai Chi.
Il y a beaucoup plus de branches que celles que j'ai évoquées, vous avez raison de le rappeler, Simeng Wang. En tout cas, moi j'ai lu un chiffre, je ne sais pas s'il faut avoir confiance en ce chiffre, mais 40% des Français, dit-on, auraient déclaré avoir déjà eu recours à une médecine naturelle au moins une fois dans l'année. Et dans les médecines naturelles, la médecine chinoise prend une place très importante. Ça donne une toute petite idée quand même. Récemment, Simeng Wang, l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière a créé un service qui a recours à des techniques, des pratiques, des procédures de médecine chinoise, notamment le Qigong dont vous parliez. Est-ce qu'il faut y voir le signe que le monde de la biomédecine en France est en train d'accepter peu à peu son intégration.
Oui, je pense que ça c'est une très bonne observation, dans le sens où en fait dans les pays européens, effectivement la valeur de la médecine chinoise est complètement défendue comme une pratique alternative hein, et complémentaire, mais c'est considéré comme une médecine holiste hein, ouvrant sur des formes d'écoute et d'intervention moins techniciste hein, si on pourrait dire, donc moins biomédicale, afin de répondre à certaines critiques de la biomédecine, justement à la crise de l'expertise et aussi comment gérer les effets secondaires. Donc pour cela, je pense que c'est important de situer aussi le développement de la médecine chinoise aujourd'hui en Europe dans un contexte plus global du développement des autres branches de médecine dites alternatives, par exemple aussi de l'associer à cet engouement pour l'homéopathie ou bien pour les pratiques comme yoga, etc.
Les choses sont en train de bouger, c'est vrai, Simeng Wang, et en même temps, on peut pas nier qu'il y a quelques doutes, quelques craintes, même une méfiance, disons-le, en tout cas d'une partie des médecins de ces institutions qui voient cette médecine chinoise aussi comme un outil de soft power. Est-ce que c'est une critique qui peut s'entendre, si on regarde par exemple le cas de ce service de la Pitié-Salpêtrière, est-ce que les autorités chinoises ont eu un quelconque rôle dans sa mise en place, ou est-ce que c'est une initiative purement française?
Oui, là je pense que c'est effectivement, on peut pas nier qu'il y a une volonté étatique assez forte hein, du gouvernement chinois de vouloir promouvoir la médecine chinoise à l'échelle internationale. Et là, effectivement, je pense qu'il faut le situer vraiment dans le contexte global de l'émergence de la Chine de ces dernières décennies, notamment avec donc l'émergence économique. La Chine ne veut plus être uniquement comme considérée comme un pays exportateur des produits, donc l'usine du monde, etc. Et la Chine veut également s'affirmer une place comme un pays qui émet également des normes et aussi des valeurs. Donc la médecine chinoise en fait partie. Et donc ça
s'illustre très bien, très concrètement, Simeng Wang. 2015, Pékin annonce un grand plan d'internationalisation de la médecine chinoise avec un premier forum qui se tient à Pékin en novembre 2015. Peut-être vous pouvez nous dire un mot sur ce forum et ce qu'il révèle de la stratégie d'externalisation, d'internationalisation de cette médecine chinoise.
Oui, et ça effectivement c'est un événement que j'ai suivi hein. Donc je pense que en prenant le recul et avec une posture de chercheur, on pourrait tout au même dire que l'État chinois a mis en place et met en place plusieurs types d'instruments d'action publique hein. Et là c'était écrit dans un article, et donc on peut dégager quatre types d'instruments d'action publique. Notamment la première, c'est vraiment des instruments législatifs et réglementaire. Donc tout ce qui concerne des négociations des normes internationales, par exemple avec des organisations supra-étatiques comme WHO, donc l'OMS, mais aussi des signatures des accords réglementaires intergouvernementaux, donc par exemple avec la France, mais il y a aussi la question des politiques des diasporas, c'est-à-dire comment appuyer comment considérer les diasporas chinoises, donc les Chinois d'outre-mer et aussi toutes les entreprises qui sont implantées à l'étranger comme un pont de diffusion de soft power.
On s'appuie sur les diasporas pour développer la médecine traditionnelle chinoise. Est-ce qu'on s'appuie sur autre chose, Simeng Wang? Depuis des années, il y a par exemple évidemment des critiques assez fortes à l'égard de la question des instituts Confucius qui se sont beaucoup multipliés, ça et là. Est-ce que par exemple ce sont des canaux par lesquels Pékin envisage précisément, espère, ambitionne de développer cette médecine traditionnelle chinoise?
Si vous regardez un peu sur les pages des instituts Confucius, effectivement, il n'y a pas uniquement l'enseignement de la langue chinoise, hein, il y a également toute une série de diffusion des cultures chinoises, et la médecine chinoise passe parfois aussi par une forme de philosophie, donc théorisée, etc. Donc effectivement, il y a plusieurs canaux, et tout à l'heure, on a surtout parlé de la la présence des diasporas chinoises, donc les Chinois d'outre-mer, mais en même temps, il est à cette question d'instruments mis en place par le gouvernement chinois. Ça peut aussi passer, ça peut aussi se passer en Chine, c'est-à-dire avec l'augmentation très importante des formations des futurs étudiants et futurs praticiens de médecine chinoise, mais qui sont d'origine étrangère, et notamment, il y a énormément d'étudiants africains, par exemple, qui sont qui ont obtenu, qui obtiennent encore aujourd'hui des bourses du gouvernement chinois pour venir en Chine pour faire des études de médecine, de biomédecine, mais aussi ça peut être de la médecine chinoise. Donc dans une optique de retourner au pays, dans leur pays d'origine, donc les pays en développement, pour pouvoir exercer comme médecin africain.
Oui, parce que la médecine traditionnelle chinoise, elle est très développée en Afrique depuis longtemps, donc il y a des liens qui sont effectifs depuis longtemps. Vous parliez des formations à l'instant du côté de la Chine, mais je parlais tout à l'heure éventuellement d'une forme d'instrumentalisation. Il faut bien voir qu'il y a une intégration réelle aussi de ces pratiques-là de l'intérieur. C'est-à-dire que si on regarde la question des formations, par exemple, il existe désormais des formations, des écoles, des universités qui délivrent des diplômes, par exemple, d'acupuncteur. On parlait d'acupuncture tout à l'heure, qui sont parfaitement reconnus par l'État. Donc, il ne faut pas y voir de l'instrumentalisation partout. L'État français, visiblement, est tout à fait enclin à faire une place à cette médecine traditionnelle, puisqu'il délivre des diplômes reconnus.
Oui, tout à fait. Et il faudrait aussi garder en tête qu'aujourd'hui, en France, en tout cas, bien évidemment, au sein de l'Union européenne, en fonction des cadres réglementaires nationaux, le développement de la médecine chinoise se différencie, bien évidemment, d'un pays à l'autre. Mais même si on prend le cas de la France, on voit que les lieux de formation des futurs praticiens en médecine chinoise se multiplient. Parfois, c'est vraiment en lien avec les universités, donc on peut délivrer des diplômes universitaires, de l'acupuncture, mais en même temps, il existe toute une série aussi de lieux de formation illégales, donc hors système universitaire, qui sont tenus parfois aussi par les migrants.
Oui, il y a encore un travail de formalisation qui reste à faire. Ouais, j'ai pas de santé. Merci infiniment à Si Meng Wang qui était à l'instant avec nous par téléphone. Je rappelle notamment, Si Meng Wang, que vous êtes spécialiste de l'immigration et que vous aviez écrit notamment Illusion et souffrance, les migrants chinois à Paris, aux éditions de la Rue d'Ulm. Un grand merci à vous, Véronique Duchesne, de nous avoir accompagnés ce matin.
Merci.
Pour nous éclairer donc sur les promesses de ces médecines traditionnelles au pluriel. Hein. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en anthropologie à l'Université Paris-Descartes et chercheuse au CEPED, le Centre Population et Développement. Merci infiniment. Je vais quand même dire un mot sur la musique qu'on entend, qui est quand même assez sympathique. J'ai pas de santé. El Blasic Rock Band Himself, hein, c'est ça, Benjamin Hu. Voilà, c'est Benjamin Hu qui a déniché tout ça. Celui qui arrive tout de suite, là, il a une santé de fer.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour, cher Brice.
Bonjour, Florian.
Alors, pour enrayer la dégradation du climat, Brice, le réchauffement de la température mondiale, devons-nous changer nos modes de vie de manière radicale ?
Renoncer à des éléments de confort que nous avions mis des générations à acquérir, au moment même où le privilège de disposer de ces innovations, longtemps réservées aux heureux habitants de l'hémisphère nord, était justement en train de changer la vie de milliards de personnes au sud. Eh bien, bien des penseurs et des experts se posent la question, mais les réponses sont loin d'être aussi homogènes qu'on voudrait parfois le faire croire. Ainsi, Ramesh Thakur, l'ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies, vient de mettre en ligne un texte accusant une certaine élite du pouvoir et de l'argent d'accumuler, je cite, « les gestes vides accomplis en public afin de véhiculer les attitudes socialement approuvées sans aucun risque ni sacrifice ». Il les appelle « The Progressive Phonies, les progressistes bidons. Et sa tête de turc favorite est le premier ministre canadien Justin Trudeau. Le darling de la gauche mondiale est, dit-il, un hypocrite doublé d'un incompétent multipliant les faux pas diplomatiques. Mais le prince Harry en prend aussi pour son grade, lui qui jet-set à travers le monde pour mettre en garde les gens contre le réchauffement climatique. Or, poursuit Ramesh Thakur, Harry est loin d'être isolé dans son cas. Quand il a voyagé vers la Sicile en juillet pour un rassemblement du climat organisé par Google, il ne fut qu'un parmi des délégués dont 114 avaient fait le voyage dans leur jet privé. Et il y avait aussi toute une flotte de yachts, pas beaucoup plus économes en énergie. Comme l'a tweeté alors le Premier ministre d'Alberta, Jason Kenney, à nouveau, un étalage de méga-yachts, de jets privés et de consommation ostentatoire, alors que des milliards de gens souffrent par manque d'énergie. L'hypocrisie de ces ultra-riches donneurs de leçons de sobriété exaspère les gens. Et comme l'écrit sur le site Aero Mats Normo Arnestad, un jeune universitaire norvégien, au nom du slogan « Pensée globale, agir local », nous sommes encouragés à changer nos habitudes de consommation pour sauver la planète. Cela va du plus évident, utiliser les modes de transport les moins polluants, au plus cocasse, utiliser ses propres excréments comme engrais du jardin.
Alors Brice, ça part de bonnes intentions, mais cela peut-il être efficace ?
Eh ben non, selon notre universitaire norvégien. La conso durable est un mythe consolateur et voilà pourquoi. 1. Croire que les consommateurs qui sont des milliards peuvent avoir un effet de masse est une illusion. Plus on est nombreux à croire quelque chose nécessaire et plus on est tenté de compter sur les autres. C'est ce que les économistes appellent depuis longtemps la tragédie des communs et qu'Aristote avait énoncé il y a 2300 ans. Ce qui est commun à tous fait l'objet de moins de soins car les humains s'intéressent davantage à ce qui est à eux. Et c'est la raison pour laquelle les régimes communistes ont dévasté leur environnement encore bien davantage que les pays capitalistes avides de profits. 2. En raison d'un biais psychologique connu sous le nom de « sensibilité à l'étendue ». Lorsque l'ampleur du problème est perçue comme trop grande, un sentiment d'insensibilité vient s'interposer en ce que nous croyons juste et ce que nous sommes réellement disposés à faire. Nous baissons les bras. 3. À cause du piège de l'empathie. Notre pitié va de manière quasi exclusive aux êtres vivants qui nous émeuvent. Les bébés pandas et dauphins plutôt que les petits des alligators. Or, le problème climatique prend rarement des formes susceptibles de nous émouvoir. L'extravagante surexploitation des océans ne mobilise guère, alors que c'est sans doute le problème numéro 1. 4. Une question de désirabilité sociale. Les humains se rassurent en se conformant aux normes sociales en vigueur. Et ces temps-ci, la consommation responsable permet de bénéficier d'un sentiment de reconnaissance sociale. Et ceux qui n'ont pas les moyens de ce type de consommation souffrent d'une perte de standing social. Ils sont souvent obèses et donc considérés comme à la fois pauvres et fautifs. Or cela attise la colère de personnes qui se sentent incapables de suivre ce qui s'apparente souvent à des mouvements de mode. Ainsi, jusqu'en 2014, il était considéré comme écologique de manger des fruits de mer. Mais depuis qu'on a réalisé que la culture en ferme marine, des scampis et autres gambas dégradaient les forêts de mangroves, c'est devenu très mal vu. Les gens simples sont, je cite, « agacés par la démagogie morale démonstrative des activistes tendance ». Alors vous me direz, quelles sont alors les solutions si ce n'est pas du côté de la consommation ? Non, les solutions efficaces, selon notre universitaire norvégien d'aujourd'hui, sont de la compétence des dirigeants politiques. C'est à eux qu'il revient d'édicter et de faire respecter par les entreprises des normes compatibles avec la préservation de l'environnement. Mais tenir le consommateur individuel pour responsable est, je cite, un dangereux sophisme.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On vous retrouve lundi, cher Brice, dans un très court instant. C'est Olivia Gesbert et La Grande Table.